Solène Bourque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychoéducatrice également, auteure de plusieurs bouquins, mais aujourd'hui, on va parler plus de Petit loup entre à l'école, bon, qui est sorti en 2012, et plus récemment, Petit loup se sent bien à l'école. Aujourd'hui, comment encadrer nos petits à la rentrée scolaire, là, ceux qui ont fait cette grande transition entre la garderie et l'école. Et pour les petits, on le sait, la nouveauté, ça peut être un petit peu effrayant. Ils sont bien accrochés à leur routine, ça les sécurise, tout ça. Comment, en tant que parents ou grands-parents ou peut-être même éducateurs, si certains nous écoutent, on peut faciliter cette transition-là?
Mais tout d'abord, comme parents, la première question à se poser, c'est comment nous, on vit ça comme parents? Parce que les enfants apprennent en nous regardant et absorbent aussi beaucoup nos émotions. Donc, si comme parents, on sent que c'est quelque chose de vraiment difficile pour nous, cette transition-là, qu'on sent que l'étape, elle est grande, bon, aller dans la cour des grands, on s'en va à l'école, c'est quand même tout un changement. Faut d'abord peut-être être attentif à comment on sent par rapport à ce changement-là pour pouvoir inculquer à notre enfant la confiance pour bien vivre cette nouvelle aventure-là.
Ça me fait sourire cette note-là de votre part, Solène, parce que, bon, sur le fil d'actualité Facebook la semaine dernière, tous les parents, mes amis ou amis proches, amis plus loin, mentionnaient la rentrée de leurs petits, du moins ceux qui en ont, bien sûr. Et « Ah, maman pleurait en le regardant entrer dans l'autobus scolaire, où j'ai retenu mes larmes. » Et je trouvais ça bien mignon, bien sûr. Mais en même temps, je me disais, quel impact sur l'enfant qui voit sa mère pleurer? Parce que, évidemment, les parents sont émus.
Oui, c'est ça.
Et c'est normal.
Mais c'est ému positivement et des fois un petit peu avec de l'anticipation négative de savoir qu'est-ce qui va se passer aussi, là.
Surtout avec tout ce que l'on entend dans les cours scolaires, les cours d'école en ce moment, avec l'intimidation. Bon, évidemment, en tant que parent, on peut avoir des appréhensions.
Ouais.
J'imagine que de se renseigner sur l'école où notre enfant va aller, apaiser ces craintes-là, ça peut nous aider aussi.
Ça peut nous aider. Puis d'ailleurs, la majorité des écoles, habituellement au printemps, autour du mois de mai, font une première rencontre là, où les parents peuvent aller en classe, rencontrer l'enseignant, voir un petit peu la structure, l'horaire, comment la journée va se passer. Ça peut aider le parent à se sécuriser pour, par la suite, pouvoir sécuriser, préparer son enfant à cette nouvelle transition-là, en tout cas, ce changement-là dans sa vie. Donc, à partir du moment où nous, nos questions sont répondues comme parents, bien, on peut plus sécuriser notre enfant. On est capable, avec lui, d'anticiper un petit peu les événements. Parce que l'enfant, jusqu'à 6 ou 7 ans, a un petit peu de difficulté à anticiper ce qui va se passer parce que ce n'est pas du concret pour lui. Il est beaucoup dans les expériences connues. Donc, ce qui est sécurisant, c'est ce qui est connu. Donc là, c'est de l'inconnu pour lui. Oui, ça peut générer un certain stress positif. J'ai hâte, je suis rendu grand, j'ai le goût d'aller à l'école. Mais d'un autre côté, un stress un peu négatif, comment ça va se passer? Est-ce que mon enseignante, elle va être gentille? Est-ce que je vais me faire des amis? Donc, ça peut aussi générer un petit peu plus d'angoisse chez certains enfants.
Il faut, j'imagine, tenter de provoquer ou du moins, bon, cette discussion, ce dialogue-là avec l'enfant qui devient très, très précieux à ce moment-là de la vie. Comment on peut l'amener à identifier ses émotions?
En fait, il y a différentes façons. C'est sûr qu'on peut poser des questions à la fin de la journée. Je dirais qu'il ne faut pas devenir trop envahissant à un moment donné, permettre à l'enfant aussi de décrocher quand il arrive de l'école, de pouvoir se changer les idées, mais de poser des questions au lieu de dire, par exemple, est-ce que tu as aimé ta journée? Là, la réponse possible, c'est oui, non. Donc, plutôt, est-ce que avec quel ami tu as joué aujourd'hui? Raconte-moi quelque chose que tu as beaucoup aimé dans ta journée. Qu'est-ce que tu as fait à côté de qui tu étais assis? Donc, en posant des questions ouvertes, l'enfant va avoir des réponses un petit peu plus élaborées. Ça risque de nous sécuriser comme parents. Ça risque aussi, lui, de l'aider à mettre des mots un petit peu plus sur les émotions. Comment tu t'es senti? Est-ce que tu te sentais fière de toi? Est-ce que tu as trouvé que c'était difficile? Donc, à ce moment-là, ça nous permet de pouvoir cibler les émotions avec lui. On peut utiliser aussi des petites histoires comme j'en ai dans Petit loup. On peut utiliser aussi des marionnettes, des jouets, des toutous, les faire parler de cette façon-là. Fait que ça permet que l'enfant, au lieu qu'il parle de lui, est en train de parler finalement à travers un petit toutou. Ah, on a un petit toutou qui rentre à l'école lui aussi, on lui met un petit sac à dos. Puis comment tu penses qu'il se sent? Fait que ça peut permettre à l'enfant de pouvoir un peu plus exprimer ses émotions, mais à travers un petit objet ou un jeu, tout ça.
Qui est un peu plus distancé de lui.
Oui, c'est ça, il se sent un petit peu moins menacé, puis le fait de pouvoir aborder ça avec lui, justement, à travers un jeu, ça rend le tout un petit peu ludique. On peut même faire un petit toutou qui revient de l'école avec l'enfant, mais nous aussi, un toutou qui revient du travail, puis on raconte un peu notre journée, parce que nous autres aussi, nos journées ne sont pas juste faites de moments positifs. Ça peut nous arriver de dire, hey, aujourd'hui, c'était le fun, j'ai dîné avec une collègue, ça s'est bien passé, mais cet après-midi, là, je vivais ça difficile. difficile. J'avais beaucoup de travail, puis je savais pas trop comment y arriver. Fait que ça dédramatise un peu pour l'enfant de dire, ah ben maman aussi, sa journée est pas parfaite.
Elle a des doutes.
Il y a des
comme
doutes,
moi.
Tout ça. Puis on a souvent tendance comme parents à dire à l'enfant, ça va bien aller, tout va être parfait. Et si ça se passe pas parfaitement, là, l'enfant est déstabilisé. On est mieux de dire, ça se peut qu'il y ait des choses qui ne se passent pas comme tu avais prévu, mais je suis certaine que tu vas trouver des solutions et je suis certaine que ton enseignante va pouvoir t'aider si toi, tu n'en trouves pas. Donc, il ne faut pas leur dire que tout va bien aller parce que là, le drame devient plus grand quand il arrive une petite peccadille.
À l'école, il y a des apprentissages qui doivent être au rendez-vous ou du moins qui doivent se développer. Je pense entre autres à attendre son tour parce que l'enseignante en a plein les bras. Il y a beaucoup d'élèves dans une classe, c'est pas comme en garderie, c'est pas comme à la maison. Les familles sont petites de nos jours. Est-ce qu'on peut préparer notre enfant à développer ces aptitudes-là?
Oui, puis en fait, les parents ont souvent tendance à se centrer sur des apprentissages très pédagogiques ou scolaires. Ouais. Apprendre à écrire son nom, apprendre à compter jusqu'à 10, alors que l'enfant a beaucoup plus besoin de développer son autonomie, apprendre à se déshabiller seul, apprendre à accrocher son manteau sur un crochet. Les enseignants mentionnent souvent à la maternelle que beaucoup d'enfants tendent les bras puis attendent qu'on les habille, alors qu'ils devraient développer ces habiletés-là, être capable d'exprimer ses émotions, être capable de faire une demande à l'enseignant, de dire « j'ai besoin d'aide, ça va pas pour mon travail ». Ça, c'est des habiletés qui sont davantage aidantes pour les enseignants et pour l'enfant d'être capable de le faire. Donc, oui, être capable d'attendre son tour, de tolérer un certain délai. Donc, c'est on joue
le partage.
Plus, ouais, on joue plus dans la zone, mettons, affective et sociale qu'intellectuelle. Les apprentissages intellectuels ou pédagogiques, académiques vont se faire naturellement à l'école, dans un contexte de groupe. L'enseignante a ses stratégies, ça va bien se faire. Alors, un enfant qui serait aucune lettre et aucun chiffre à l'entrée à la maternelle, il va arriver à la fin de la maternelle au même point que les autres.
Ouais.
Il n'y a pas d'inquiétude.
Et ça, c'est assez intéressant et c'est vrai qu'on n'y pense pas à développer ce côté-là plus émotif. D'ailleurs, côté émotion, et ça, je trouve que c'est un clin d'œil formidable, vous parlez de cette boîte à peur que l'on peut utiliser avec notre enfant.
Oui, en fait, c'est une stratégie que je trouvais intéressante parce que l'enfant de cet âge-là, mettons entre 4 et 8 ans, accorde beaucoup d'importance à l'imaginaire, accorde beaucoup d'importance à des petits éléments qu'il va considérer comme un peu magiques. Alors, s'il y a une peur à l'intérieur de lui, il a l'impression qu'elle va prendre toute la place. Alors, on peut construire une petite boîte à peur avec l'enfant qu'on décore, puis on dit, tu peux l'écrire, tu peux la dessiner, dépendant de l'âge de l'enfant. On la met dans la boîte. À partir du moment où on est dans la boîte, elle n'est plus à l'intérieur de toi, elle est à l'extérieur. Et à la fin de la semaine, on peut aller porter la boîte à peur au recyclage. On peut aller les jeter ou il y en a qui vont faire des petits feux thématiques avec ça.
Mais c'est disparu.
Mais c'est disparu. Puis pour l'enfant, ben il y a comme une symbolique reliée à ça qui va faire en sorte qu'il peut se confier s'il y a une peur à l'intérieur de lui puis qu'il ne se sent pas à l'aise d'en parler à son parent. Ben il peut aller la dessiner puis la glisser dans sa petite boîte à peur.
Très, très rapidement. Parce qu'il reste une minute.
Oui.
Le souhait de tout parent, c'est que son enfant aime l'école.
Comment soit bien.
Oui. Comment on peut lui transmettre ça?
Bien, je pense qu'il faut justement lui faire confiance. Puis dans le fond, l'enfant, il a besoin beaucoup plus d'être outillé, que ce soit lui qui applique les propres stratégies plutôt que ce soit nous qui allons régler les choses dans la cour d'école. Donc, s'il nous rapporte une situation, de lui dire « qu'est-ce que tu aurais pu faire dans cette situation-là? » Donc, on essaie de l'outiller le mieux possible pour que lui, il vive ça.
Et le rendre autonome.
Voilà. Tout à fait.
Solène Bourque, un plaisir de vous rencontrer. Merci. Pour en savoir davantage, solenebourque.com. Il y a une panoplie d'articles, d'astuces, d'outils. Il est formidable, votre site.
Merci.
Merci beaucoup de votre participation à l'émission. C'était très outillant.
Merci.
Au plaisir. Oui. Mathieu Tessier à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche, Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye. Thank you.